Donc, je me suis présentée tout à l'heure, donc Michel Coulon de la DGESCO. Donc, avant de vous parler plus précisément de l'axe 3 du référentiel et de la coopération utile avec les parents d'élèves, je vais vous dire quand même deux mots sur la politique d'éducation prioritaire, où on en est exactement, puisque bon, je pense que c'est un petit peu aussi mon rôle. Donc vous savez que la refondation, bon, elle est engagée depuis l'année dernière avec la préfiguration, et elle est complètement engagée à cette rentrée 2015. Donc elle est complètement engagée parce que nous avons maintenant, depuis la rentrée 2015, une nouvelle cartographie. C'était la première étape de la refondation, c'était de rendre, d'appuyer la politique d'éducation prioritaire sur une géographie plus juste. Donc c'est le travail qui a été fait l'année scolaire dernière, hein, qui a été fait en concertation avec les académies, qui a abouti à ce que le réseau d'éducation prioritaire actuellement concerne à peu près le même nombre de réseaux qu'auparavant, c'est-à-dire un millier de réseaux, et on a opéré à peu près 200 entrées, 200 sorties. Donc, ce qui fait que la carte a été quand même renouvelée de manière importante. C'est quelque chose de complètement inédit, ça n'a jamais été fait. On a révisé plusieurs fois la carte, mais plutôt pour l'augmenter, pour ajouter, mais jamais pour retrancher, pour mettre à la place. Donc, on est entré dans un processus maintenant avec la carte d'éducation prioritaire qui est une révision régulière de cette cartographie. On aimerait qu'on ne soit plus en éducation prioritaire à vie, mais c'est une entrée provisoire, un moment temporaire. On peut y entrer, on peut aussi en sortir. Donc on a un changement là de logique et d'approche qui est important. La deuxième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est le référentiel. Donc on va en reparler maintenant. Et on a toute la mise en œuvre de la nouvelle politique autour du référentiel, du travail collectif des enseignants, enfin ce que vous connaissez bien, qu'il s'agit maintenant d'accompagner. Donc la DGESCO est dans une phase maintenant d'accompagnement de la politique qui est mise en place. Alors cet accompagnement, cette année scolaire, se traduit comment de notre côté, hein, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on a engagé toute une série. Alors il y a un comité de pilotage national, hein, avec le cabinet de la ministre et puis les inspections générales. Et ensemble, on décide des formes de cet accompagnement. Donc la DGESCO va visiter des académies 5 par an, donc on commence cette année, on va aller voir 5 académies pour voir comment ça se passe, quels sont les problèmes, à toucher un petit peu du doigt comment les choses se déroulent, pour pouvoir adapter notre accompagnement aux problèmes qui sont posés dans la mise en œuvre. Donc ça, c'est une chose que nous faisons. La deuxième chose importante, c'est la formation de formateurs qui a débuté en 2014, qui s'est poursuivie en 2015 et qui se poursuivra encore, puisque ces formateurs que nous avons formés, les formateurs éducation prioritaire dans les académies, qui sont maintenant environ 200, nous continuerons à les suivre. Un retour de formation est prévu en juin, et ensuite il y aura une autre promotion de formateurs pour 2015-2016. Donc c'est quelque chose qu'on continue et qu'on suit. Par ailleurs, on met aussi en place des groupes de travail avec toutes sortes de personnes, des inspecteurs généraux, des personnes qui nous viennent des académies, qui représentent différents acteurs, différentes positions dans l'éducation prioritaire, des chercheurs, l'IFE participe. Nous mettons en place ces groupes de travail pour produire des documents en capacité d'aider. Des documents ou autres, d'ailleurs on ne sait pas quelle forme ça a, on va dire outils de manière large, pour outiller les acteurs dans la mise en œuvre de grandes problématiques qui sont importantes. On en a dégagé trois thématiques qui vont nous occuper cette année. Enseigner plus explicitement, essayer de creuser cette question, de l'approfondir pour pouvoir vous aider à la travailler sur le terrain. L'hétérogénéité des élèves, comment tirer profit de cette hétérogénéité et l'organiser, et l'intermétier, comment travailler en intermétier, qu'est-ce que ça recouvre et comment on peut outiller cette question-là. Donc voilà en très gros les grandes directions qui occupent la DGESCO, enfin le bureau de l'éducation prioritaire à la DGESCO pour l'accompagnement de la politique d'éducation prioritaire actuellement. Mais on pourra, je pourrai répondre à vos questions après si vous avez des questions sur notre travail. Pour vous parler des parents, vous parler des parents et du référentiel, le référentiel, dans son axe 3, effectivement, il nous dit mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. Je vais laisser de côté les partenaires pour aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à coopérer utilement avec les parents et vous dire comment, finalement, sur quelles idées, sur quelles bases, sur quels principes, sur quelle posture professionnelle, sur quelle philosophie a été créée les items, reposent les items du référentiel. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, de vous expliciter. Je vais pas l'expliciter de manière institutionnellement froide, on va dire, ou détachée. Je pense que je vais mettre beaucoup de moi dans ce que je vais vous dire. Donc, comme c'est pas filmé, c'est pas enregistré, je vais pouvoir dire les choses comme je les sens, comme je les pense, comme je les vis. Donc, ce sera un petit peu personnel aussi, en faisant appel à des auteurs qui me sont chers. Je trouvais important, puisque finalement ce qui sous-tend tout ce qu'on va dire sur les parents dans le référentiel, c'est plutôt, pour faire référence à ce que disait Philippe Bongrand tout à l'heure, c'est plutôt travailler avec l'usager plutôt que sur l'usager ou sans l'usager. Donc on est travailler avec l'usager, donc travailler avec les parents. Les parents ne sont pas là aujourd'hui, donc je vais essayer de les rendre un petit peu présents par différents subterfuges que vous verrez au fur et à mesure de ma présentation, mais me tenez à cœur qu'on les ait avec nous, là, d'une manière que je les emmène un petit peu dans mon sac et qu'ils soient un petit peu avec nous dans notre réflexion. Alors, je vais repartir de ce constat là que vous avez sous les yeux, que maintenant vous connaissez bien. Malheureusement, on connaît bien cet état de fait de notre école aujourd'hui. On sait combien la réussite scolaire est liée à l'origine sociale des élèves, combien pèse lourd l'origine sociale des élèves dans la réussite scolaire. Ça n'est pas un hasard si les choses se passent comme ça. Je vous cite. Alors, je ne sais pas, suivant. Voilà. Je vous ai mis là une citation de Jean-Paul Delahaye, qui est inspecteur général, qui était directeur de la DGESCO il n'y a pas si longtemps, et qui dit dans un article récent qu'il a écrit pour la Fondation Jean Jaurès, « L'échec scolaire des plus pauvres n'est pas un accident. Il est inhérent à un système qui a globalement conservé la structure et l'organisation adaptée à la mission qui lui a été assignée dès l'origine, triée et sélectionnée. » Il dit plus loin... L'échec scolaire des plus pauvres n'est pas un des problèmes de l'éducation nationale. Notre système éducatif, c'est le problème. C'est le problème principal. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. C'est ce pourquoi la refondation de l'éducation prioritaire se fonde. C'est bien pour travailler cette question-là, c'est-à-dire changer finalement un système qui crée cette discrimination sociale dans la réussite, un problème de confrontation, et s'agit bien, puisque ça n'est pas un hasard, c'est bien toujours une même catégorie de population qui appartient à une même catégorie sociale qui échoue dans notre école. C'est donc bien un problème de confrontation sociale, d'interaction sociale entre ce que sont des personnes et ce qu'est l'école, et cette interaction produit massivement de l'échec scolaire. Donc c'est vraiment c'est un problème qui dépasse largement ce qu'on a pu dire, l'égalité des chances, etc. Il s'agit vraiment, là, on est dans une égalité d'accès aux droits fondamentaux. Donc c'est bien avec cette optique-là, sur cette position-là, que nous avons refondé l'éducation prioritaire et plus globalement la refondation de l'école, mais moi je suis là pour parler de l'éducation prioritaire, donc je m'en tiendrai là. Donc on est là dans une école qui a une position dominante face à une population plutôt qui est dominée, et on est largement quand même inspiré par ce que nous disait tout à l'heure Philippe Bongrand, c'est-à-dire finalement quelqu'un le disait aussi dans la salle, on est quand même toujours largement habité par la thèse quand même du handicap socioculturel qui est toujours quand même très présente dans les salles de classe, dans les salles de cours, c'est-à-dire de finalement voir dans ces élèves et dans ces parents de milieux populaires des personnes qui sont plutôt décrites en termes de déficit ou de manque. Quand on regarde les projets, même encore des réseaux, alors j'espère que ça va évoluer puisqu'ils sont en réécriture, quand on voit le diagnostic, on est quand même souvent en manque de culture, manque de langage, manque de vocabulaire, manque d'ambition, manque de, donc on est quand même encore beaucoup dans cette théorie du manque qui traverse quand même toutes nos actions. Alors, quand on veut changer le système, et quand on veut refonder l'éducation prioritaire, changer l'école de façon à la rendre inclusive, c'est-à-dire véritablement qu'elle puisse être en capacité d'accueillir les élèves avec des profils hétérogènes. Une école inclusive, c'est un concept qui a été un petit peu préempté par le handicap actuellement, mais qui est un terme moi que j'aime bien parce que c'est pas construire une école et puis essayer de rattraper, c'est pas organiser une école puis essayer de rattraper après par de la remédiation ou des dispositifs les enfants qui ne suivent pas, mais c'est bien essayer de construire une école qui est organisée pour accueillir tous les élèves, en tenant compte de tout ce que sont les élèves dans leur hétérogénéité d'expérience, de compétences acquises. C'est cette école-là qu'il faut organiser. Alors, comment le faire et comment travailler ? C'est toute la structure du référentiel qui est construite sur cette question. Alors, agir comment ? Donc, on a finalement, avec le référentiel, travaillé sur deux grands axes, deux grandes priorités. La première priorité, ou les premières priorités, ce sont des priorités pédagogiques, c'est-à-dire qu'il faut, il faudrait que dans ce que nous offrons comme enseignement à nos élèves, nous tenions compte des compétences qui ne sont pas les compétences qu'on leur demande mais qu'on n'enseigne pas. Il faut donc enseigner et construire une école qui tient compte de leurs besoins, de ce qu'ils sont, de ne pas faire comme si certaines des compétences absolument indispensables pour réussir à l'école étaient acquises ailleurs et que l'école n'est pas à les prendre en charge. Donc c'est tout la priorité pédagogique qui est donnée à la refondation qu'on trouve dans les axes 1 et 2, principalement du référentiel. Je ne m'y attarderai pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour rendre présent un petit peu les enfants aujourd'hui, pour les rendre un petit peu présents avec nous, je voulais vous lire des extraits d'auteurs qui nous parle bien de ces questions. Alors, le premier de ces auteurs, je vous donnerai les références un petit peu plus loin, c'est Didier Héribon. Peut-être vous connaissez Didier Héribon, c'est un philosophe qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Retour à Reims ». Donc, il écrit dans ce livre, c'est un homme qui était donc issu d'un milieu extrêmement populaire, qui a suivi des études avec succès et qui est parti, qui a quitté très vite son milieu familial et qui revient à la mort de son père. Et c'est tout un retour en fait sur son parcours. Alors je vous lis ce qu'il dit sur justement la culture scolaire. L'apprentissage de la culture scolaire et de tout ce qu'elle exige s'avéra pour moi lent et chaotique. La discipline qu'elle requiert, du corps autant que de l'esprit, n'a rien d'inné et il faut du temps pour l'acquérir quand on n'a pas eu la chance que cela intervienne dès l'enfance sans même que l'on s'en aperçoive. Ce fut pour moi une véritable ascèse, une éducation de moi-même, ou plus exactement une rééducation qui passait par le désapprentissage de ce que j'étais. Ce qui allait de soi pour les autres, il me fallait le conquérir jour après jour, mois après mois, au contact quotidien d'un type de rapport au temps, au langage et aussi aux autres, qui allait profondément transformer toute ma personne. On voit là dans ce qu'il écrit comment finalement l'école dans son quotidien ne va pas du tout de soi pour les enfants, mais on a bien à tenir compte, nous, de ce qu'ils sont, pour leur permettre, lui, il a réussi à se conformer finalement aux attentes de l'école, beaucoup n'y réussissent pas, et d'où le volet pédagogique et pratique qui est absolument fondamental pour que ces enfants s'y reconnaissent. Un autre extrait d'un autre écrivain, que vous connaissez sans doute, qui est un petit peu plus connu, Annie Ernaux, dans Les armoires vides, qui nous dit la chose suivante. La maîtresse parle lentement, en mots très longs, elle ne cherche jamais à se presser, elle aime causer, et pas comme ma mère. Suspendez votre vêtement à la patère. Ma mère, elle hurle quand je reviens de jouer. Fous pas ton paletot en boulichon. Qui c'est qui le rangera, tes chaussettes en carcaillot? Ça se passe en Normandie, donc il y a un peu de... Il y a un monde entre les deux. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire d'une manière ou d'une autre. Chez moi, la patère, on ne connaît pas. Le vêtement, ça ne se dit pas, sauf quand on va au palais du vêtement. Mais c'est un mot comme le sur, on n'y achète pas des vêtements, mais des affaires, des paletots, des frusques. Pire qu'une langue étrangère, on ne comprend rien en turc, en allemand, c'est tout de suite fait, on est tranquille. Là, je comprenais à peu près tout ce qu'elle disait, la maîtresse, mais je n'aurais jamais pu le trouver toute seule, mes parents non plus. La preuve, c'est que je ne l'avais jamais entendu chez eux. Des gens tout à fait différents. Ce malaise, ce choc, tout ce qu'elles sortaient, les maîtresses, à propos de n'importe quoi, j'entendais, je regardais, c'était léger, sans forme, sans chaleur, toujours coupant. Le vrai langage, c'est chez moi que je l'entendais, le pinard, la bidoche, se faire baiser, la vieille canne, dit bonjour ma petite besotte. Toutes les choses étaient là aussitôt, les cris, les grimaces, les bouteilles renversées. La maîtresse parlait, et les choses n'existaient pas. Le ventail, le soupirail, j'ai mis 10 ans à savoir ce que c'était. Donc, on voit bien là dans ces témoignages, c'est pour ça qu'ils sont précieux, l'étrangeté en fait du savoir scolaire qui peut traverser nos élèves. Alors, coopérer utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire, ça c'est l'axe 3. Je vais expliciter après, un petit peu plus loin, pourquoi c'est fondamental et pourquoi il se trouve là dans le référentiel. Je ne vais pas l'expliciter tout de suite, on va passer aux axes suivants. Toutes ces choses, une évolution pédagogique, un rapport, une coopération utile avec les parents ne peuvent se faire que si on a un travail d'équipe qui s'organise. On ne peut pas concevoir que les enfants, comme leurs parents d'ailleurs, soient soumis aux aléas de tel enseignant qui fait telle chose, qui prend en compte telle chose, tel autre qui ne le fait plus l'année suivante. Et il faut qu'on puisse proposer à nos élèves et à nos parents un travail continu, cohérent, qui va dans le même sens, de façon à ce qu'il soit efficace. Donc ça implique un travail d'équipe qui est donc développé avec les dispositions qui sont prises pour l'éducation prioritaire, qui implique que les enseignants soient accompagnés, qu'ils soient soutenus, qu'ils soient formés, et pour tout ça, qui implique que le pilotage, l'animation des réseaux soient renforcés. Donc ceci pour vous montrer comment le référentiel a été construit de manière systémique, puisque tous les axes se tiennent et se soutiennent et sont indissociables les uns des autres si on veut espérer que les choses avancent. Alors, mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires. Donc, je vous ai dit, les partenaires, je vais laisser tomber les partenaires pour aujourd'hui. Pas bien, mais on va faire comme ça. Donc, on va mettre en place, je vous ai mis en rouge, mettre en place une école qui coopère utilement. Alors, j'ai mis en rouge ces trois mots-là parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit mettre en place une école. Ça veut dire que peut-être, elle n'est pas tout à fait en place, cette école-là qui coopère. Donc ça veut dire qu'on a sans doute des progrès collectivement à faire pour que ça se passe. Une coopération, donc si je reprends ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, on va dire qu'on est là avec les usagers, on n'est pas sur les usagers, on ne veut pas changer les parents d'élèves, on veut travailler avec eux, donc c'est un mot extrêmement important. Et utilement, de la même façon... Ça veut dire qu'on va s'interroge les actions qu'on met en place. En quoi les actions qu'on va mettre en place vont nous aider, vont aider les enfants pour la réussite scolaire. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un bon rapport avec les parents qui n'auraient pas d'effet sur la scolarité. On cherche bien à ce qu'il y ait un effet sur la scolarité. Donc j'ai mis en, en dessous, pourquoi faut-il coopérer avec les parents? C'est ce que disait Patrick tout à l'heure ce matin. Finalement, pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de coopérer avec eux? Pourquoi faire, hein, pour aller vers quoi? Et en quoi cette coopération, selon quelle modalité, peut-elle être utile à la réussite scolaire des enfants et des adolescents? Alors, pour répondre finalement à ces interrogations, pourquoi est-ce qu'il est utile de coopérer avec les parents et pourquoi cette coopération est particulièrement fondamentale quand on est en éducation prioritaire face à des familles de milieux populaires, j'emploie cette expression un peu large de façon délibérée, mais pourquoi est-ce que cette coopération est-elle vraiment particulièrement décisive en éducation prioritaire? J'ai repris en dessous ce que vous trouvez sur le site national de l'éducation prioritaire sous cet item, hein, mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents. Sous cet axe-là, il y a une petite explication, des mots d'explication sur le site national de l'éducation prioritaire. Avec les parents qui, pour certains, se sont écartés illégitimes face à la culture scolaire, l'école doit patiemment bâtir et entretenir une relation qui assure une meilleure connaissance mutuelle en s'abstenant de tout jugement. Donc c'est un des fondements du référentiel, construire une relation avec les parents pour une meilleure connaissance mutuelle et qu'ils s'abstiennent, c'est une éthique professionnelle, de tout jugement. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la théorie du manque, on essaye de construire une relation pour mieux se connaître et se reconnaître mutuellement. Et pourquoi se connaître et se reconnaître mutuellement ? C'est prendre conscience déjà de ce qui nous sépare, des malentendus qui peuvent traverser notre relation, pour mettre à l'abri l'élève des conflits douloureux et des conflits de loyauté douloureux sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. C'est travailler ces deux dimensions-là, c'est finalement permettre à l'élève de vivre une scolarité, on va dire, le plus sereinement possible. Car finalement, un enfant de milieu culturellement plutôt favorisé, quand il vient à l'école, il retrouve grosso modo l'ambiance de sa famille, les références culturelles de sa famille, les habitudes de sa famille. Pour un enfant de milieu populaire, c'est pas le cas, on l'a vu. Et donc, il va falloir essayer de faire en sorte de mettre autour de lui un cadre sécurisant. Alors, tout à l'heure, on parlait de la théorie du handicap socioculturel. Là, pour amener les familles avec nous, pour qu'elles soient un petit peu présentes dans le propos, je vais faire à plusieurs reprises référence à des formations. Certains qui m'ont peut-être entendu ont déjà vu cette expérience que j'avais menée avec le mouvement ATD Quart Monde de co-formation, où on a ensemble des parents qui vivent dans la grande pauvreté, la grande précarité sociale, avec des enseignants. J'ai mené des co-formations comme ça avec le mouvement ATD Quart Monde pendant plusieurs années. Et on travaille ensemble. Ça veut dire qu'à certains moments, les enseignants, d'une part, et les parents, d'autre part, font un même travail et se retrouvent ensuite pour voir comment, si les résultats de ce travail sont les mêmes ou quelles sont les différences et analyser les différences. Donc là, au cours de cette formation, on a demandé aux enseignants d'une part et aux familles d'autre part, aux parents, de nous dire ce qu'ils associent à la grande pauvreté. Les mots qu'ils associaient au mot grande pauvreté. Donc on voit du côté des enseignants on voit ce qu'ils nous disent, hein, difficulté, insécurité, exclusion, injustice, précarité, exclusion. Le mot qui est en exergue, c'est le mot qu'ils ont choisi comme étant le plus important. On voit du côté des familles les mots qui ont été choisis, où on a dignité, courage, aider, solidarité, vêtements, exclusion, et le terme qui a été choisi en exergue, regard. Donc, je pense que c'est assez symbolique, finalement, de ce qui se passe dans notre école. C'est-à-dire qu'on a une vision quand même assez négative de la grande pauvreté, tandis que du côté des familles, on voit des valeurs positives sortir dont on a, nous, assez peu conscience. Donc, un regard sur elles-mêmes qui est un regard positif de ce qu'elles ont peut-être à apporter et à dire. Et en même temps, la difficulté pour elle de subir le regard qui est posé sur elle. Vous voyez, le terme vêtement, c'était ça qu'il voulait dire. Hein. C'était qu'on est finalement dans notre apparence physique, on a une difficulté à supporter ce regard, cette stigmatisation. On sait qu'on n'est pas toujours bien habillé et qu'il faut qu'on est visible de mauvaise manière. Donc cette, on voit, je pense, dans cette confrontation des deux productions, ce qui est encore en cours dans nos écoles, c'est des visions extrêmement différentes des enseignants d'un côté et des familles de l'autre. Et c'est une chose qu'il est important de travailler quand on travaille avec les familles, c'est de bien comprendre finalement tous les malentendus, toutes les visions différentes qu'on peut avoir les uns et les autres, et dont il faut avoir conscience pour pouvoir travailler avec. Sur ces malentendus qui traversent toutes les relations finalement entre l'école et les familles, il y a un auteur qui a été cité tout à l'heure aussi, qui est Daniel Tin, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Quartier populaire, l'école et les familles, et c'est un ouvrage qui permet bien d'expliciter en quoi finalement les manières de faire, les manières de voir, les manières de concevoir sont différentes dans les familles, les différences qu'il peut y avoir, et ça nous permet de pouvoir mettre à la place du manque, du déficit, de mettre autre chose, de savoir ce que sont ces familles, de dépasser parce qu'on sait beaucoup ce qu'elles ne sont pas, on sait peu ce qu'elles sont, et finalement ce livre-là de Daniel Tin nous permet d'approcher un petit peu ce qu'elles sont au travers de différentes thématiques qui sont abordées. Je donne un autre exemple plus loin, voilà. Par exemple, quelques extraits de ce livre. C'est extrait de Daniel Tin toujours, puisqu'il a interviewé beaucoup de parents. Donc ça, c'est une parole d'une mère d'un élève. La maîtresse me dit qu'il fait des bêtises en classe, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas dans la classe, j'ai déjà bien du mal à la maison. Donc il nous explique, lui, hein, comment finalement les parents exercent leur autorité beaucoup en présentiel, quand ils sont là, quand ils peuvent agir directement sur l'enfant et qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre parfois quand on leur demande ou quand on leur dit « votre enfant n'est pas sage à l'école », essayez de, finalement, en demandant une espèce d'aide aux parents, qu'ils ont bien du mal à comprendre ce qu'on leur demande. Donc... écouter ce qu'ont à dire les parents sur les modes d'autorité permet de comprendre et puis de travailler après avec eux, de s'expliquer. Un autre exemple, elle restait à l'étude, c'était du basket, lecture d'histoire, informatique, alors je lui ai dit de rentrer chez nous, tu feras tes devoirs, c'est mieux. Donc là, une difficulté qu'on voit des parents de comprendre en quoi certaines activités sont utiles aux apprentissages quand eux ont plutôt une vision plus scolaro-scolaire de ce qu'il faut faire pour réussir à l'école. C'est d'ailleurs des incompréhensions qui font que les familles peuvent avoir parfois l'impression que ce qu'on propose à leurs enfants, c'est nous-mêmes qui manquons d'ambition pour leurs enfants, puisque quand on leur propose de lire des histoires, de faire du basket ou de l'informatique, on les fait pas travailler, on n'a pas d'ambition pour eux, et les familles peuvent nous en vouloir. Donc c'est des logiques différentes, des appréhensions différentes de la scolarité, de l'autorité, qui font que ces malentendus traversent les rapports qu'on entretient avec l'école et qui vont nuire à la scolarité de l'élève. Et c'est bien dans les rencontres qu'on va avoir avec eux, dans la capacité qu'on va avoir à créer des espaces où on va pouvoir parler avec, qu'on va pouvoir écouter, où on va pouvoir se rendre aussi explicite dans ce qu'on fait, qu'on va pouvoir faire avancer les choses et dépasser les conflits, les malentendus, et dépasser sans doute, j'espère, cette vision qu'on a des familles d'uniquement les qualifier de manque. Un dernier exemple de ce qui peut parfois nous créer de l'incompréhension, le rapport au temps. Dans la Dans la formation que j'avais faite, on avait demandé aux enseignants, là on avait travaillé avec des photolangages, sans doute une technique que vous connaissez, où on demande à un groupe de choisir une photo parmi plein de photos qui sont là, qui n'ont rien à voir avec rien, qui sont découpées dans des magazines. On demande à des parents, au groupe de parents, choisissez une photo qui pour vous représente le rôle de l'école. Et on demande aux enseignants de faire la même chose. Et ensuite on confronte les deux, alors les enseignants et les parents se retrouvent et confrontent leur production et échangent à partir de leur production. Donc on voit là la production des familles, rendre mon enfant heureux, qu'il soit content d'y aller. Ça c'est le rôle de l'école, hein, de le rendre heureux, content de travailler. Dans ce que nous proposent les enseignants, c'est quelque chose de beaucoup plus, compliqué à comprendre. Hein. On a l'enseignant qui est à côté de la voiture. Vous voyez la voiture. Et tous les vélos qui essayent de suivre la voiture et de la rejoindre, ce sont les élèves. Donc pour montrer que la scolarité est un chemin périlleux, on essaye d'emmener tout le monde vers un but. On ne sait pas si tout le monde va arriver à bon port, s'il n'y en a pas qui vont se scratcher dans le ravin, là, probablement. Hein. Donc, toute l'angoisse enseignante hein, qui ressort là, l'angoisse enseignante, et puis quelque chose qu'on perçoit bien, et on le perçoit, si j'avais le temps, je pourrais vous montrer les autres photolangages qu'on a fait, où ressort bien cette différence de rapport au temps. C'est-à-dire qu'avec les familles, on est bien on est bien dans le présent. Rendre mon enfant heureux, il faut qu'il soit heureux d'aller à l'école. Et alors que chez les enseignants, on est dans construire demain. Hein, construire demain, aller vers un projet professionnel, d'épanouissement, etc. Et en dessous, je vous ai mis une citation que nous avait dit un père d'élève dans une action qu'on avait faite avec le Secours Populaire. Demain, on lui demandait demain pour vous, l'avenir. Demain, j'y réfléchis deux fois avant d'y penser. Donc ça dit bien. Donc là, je vais passer. Donc on est dans ce travail avec les parents à faire. On a ce travail à faire avec les parents dans des lieux où on peut se rencontrer et travailler ensemble pour. Non pas que les parents adaptent le point de vue de l'école et que l'école adopte le point de vue des parents, mais que ces différences, que ces manières de voir différentes puissent s'exprimer, puissent s'expliciter pour qu'on puisse vraiment travailler avec. Donc c'est ce qui sous-tend cette conscience que les choses ne sont pas évidentes et qu'il y a des malentendus et une interaction sociale qu'il faut travailler, qui sous-tend les items du référentiel dans tous ces propositions qui sont faites, à la fois d'expliciter l'école et de créer des lieux où les échanges soient possibles, où on soit en position d'écoute pour comprendre et tenir compte de ce qu'on a pu comprendre et apprendre des parents. C'est un des fondements du référentiel. Une autre chose, un autre point, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le conflit de loyauté. Patrick Picard l'a évoqué tout à l'heure, il a parlé de la triple autorisation. Elle est là. Je l'avais préparée avant qu'il le dise. Hein. On n'avait pas préparé. Alors cette triple autorisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour beaucoup d'enfants de milieux populaires, réussir à l'école constitue une véritable rupture de leur milieu social, peut occasionner une souffrance que l'école peut tenter, si ce n'est d'accompagner, mais au moins de soulager. En la travaillant un peu et surtout en ayant conscience. Alors là, je vais reprendre quelques extraits des deux auteurs que j'ai cités tout à l'heure, qui expliquent bien finalement ce que nous dit Jean-Yves Rochex que je préciserai tout à l'heure. Alors là, ça c'est toujours Annie Ernaux dans les armoires vides. J'aurais aimé la discrétion, la mesure, la pudeur. À la place, la précipitation, le débordement, la saleté, ces bruits de nourriture. Il n'aurait pas fallu juger là-dessus. Pour moi, c'était une différence. Paysan du XVIIIe siècle mangeant sa soupe, un tableau du livre d'histoire, on dirait mon père. Toutes les humiliations, je les mets sur leur compte. Ils ne m'ont rien appris, c'est à cause d'eux qu'on s'est moqué de moi. Leurs mots, dont on me dit qu'ils sont l'incorrection même. Incorrect, familier, bas. Mademoiselle Lesure, ne savez-vous pas que cela ne se dit pas ? La faute, c'est leur langage à eux. Malgré mes précautions, ma barrière entre l'école et la maison, il finit par traverser, se glisser dans un devoir, une réponse. J'avais ce langage à moi, j'avais fourré mon nez dans les gâteaux à pleine main, j'avais rigolé devant les sous-lots. Je les haïssais d'autant plus, mes parents. Ce n'est pas vrai, je ne les haïssais pas. Quand j'allais à la boîte religieuse, elle était dans une école privée. Mais ça n'a rien à voir avec... Je pensais à eux qui restaient à travailloter, les casiers, les petits comptes, images grises. Je fondais papa, maman, les seuls qui s'intéressaient vraiment à moi. Je n'ai qu'eux, agrandis, souriants. Ils ne sont dans ma pensée que gentillesse, oubli d'eux-mêmes, des gens exceptionnels. Donc on entend bien à travers ce que nous dit Annie Ernaux, la tension, à la fois le rejet et la... Elle se prend pour un monstre. Je ne suis pas un monstre. Je ne peux pas dire ça de mes parents et je n'aime qu'eux, mais en même temps, je les rejette et c'est compliqué. Didier Ribon nous dit la même chose. Je vais retrouver mon passage. Pour leur dire simplement, le type de rapport à soi qu'impose la culture scolaire se révélait incompatible avec ce qu'on était chez moi. Et la scolarisation réussie installait en moi comme une de ces conditions de possibilité, une coupure, un exil même, de plus en plus marqué, me séparant peu à peu du monde d'où je venais et où je vivais encore. Et comme tout exil, celui-ci contenait une forme de violence. Je ne l'apercevais pas puisque c'est avec mon consentement qu'elle s'exerçait sur moi. Ne pas m'exclure ou ne pas être exclu du système scolaire m'imposait de m'exclure de ma propre famille, de mon propre univers. » Donc on entend bien hein, dans ces deux témoignages la difficulté pour les enfants de réussir scolairement, puisque ça signifie pour beaucoup s'exclure de leur milieu social. Alors Jean-Yves Rochex a travaillé cette triple autorisation, enfin il a théorisé ça en une triple autorisation, il dit pour que finalement la scolarité d'un enfant se passe bien, pour que la réussite scolaire soit possible, il faut qu'une triple autorisation fonctionne. L'enfant doit s'autoriser à être différent de ses parents, donc accepter d'être différent de sa famille, que les parents acceptent aussi à l'enfant d'être différent d'eux, mais que l'enfant doit autoriser ses parents à être différent de lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire pouvoir changer, être différent de sa famille, mais sans en avoir honte. Et je pense que là, on a un rôle, sans faire de la psychothérapie familiale, parce que c'est pas notre rôle, on a un rôle à faire dans les relations qu'on noue avec les familles de milieux populaires, dans le respect, dans le travailler avec qu'on construit. Je pense qu'on peut aider les enfants à ne pas avoir honte de leurs parents si on leur montre que l'école, effectivement, n'a pas honte de ces parents-là, mais travaille bien avec eux. Et il me semble que là, on a toute la dimension, tout le sens que doivent prendre les relations école-parents dans les milieux populaires et toute leur raison d'être dans les milieux populaires. C'est en tout cas à partir de tout ce que je viens de vous dire que le référentiel a été construit. Vous avez là les différents items qu'on retrouve. Alors je vous les cite pas, j'ai simplement parce que vous les connaissez déjà complètement par cœur, hein. Donc simplement peut-être pour donner 2-3 petites clés sur quelques items. Un entretien personnalisé avec les parents, des rencontres individuelles qui respectent la confidentialité. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup remonté des parents eux-mêmes disant. Mais moi, aller à l'école, c'est difficile parce qu'il y a déjà le regard, on a vu le regard tout à l'heure. Le regard, c'est pas tellement le regard des enseignants qui souvent est bienveillant, enfin qui, j'espère, est bienveillant. Enfin, on essaye qu'il le soit, mais ça peut être simplement le regard des autres parents aussi. D'où le besoin de certains parents de pouvoir rencontrer les enseignants dans la confidentialité, cela seul, de pouvoir dire des choses sans que tout le monde entende dans le couloir, comme par exemple c'est le cas dans des réunions parents-prof au collège, par exemple, où on entend tout ce qui se dit. Pour des parents qui sont en difficulté sociale, c'est quelque chose d'assez insupportable, surtout si leur enfant est en difficulté scolaire. Donc voilà, c'est une des précisions c'est des choses qu'on avait entendues et qu'on a souhaité remettre là pour attirer l'attention sur ces difficultés de séance collective auxquelles les parents ont un petit peu du mal à adhérer. Alors les réseaux font des choses, hein, les réseaux agissent, puisqu'on avait fait une enquête l'année dernière qui nous donnait un petit peu un panel de ce que faisaient les réseaux, ce que vous faites aussi. J'ai lu dans ce que vous avez rendu à Marie-Odile beaucoup d'actions qui sont beaucoup de dispositifs que vous mettez en place. Là, c'était une enquête qu'on avait fait l'année dernière auprès des REP+ préfigurateurs. Donc des rendez-vous, on voit bien qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui se font, des rendez-vous réguliers et individuels. Tout le travail qui se fait actuellement sur les salles des parents, où on essaye de créer ces moments dont je parlais tout à l'heure de rencontres, hein, de discussions, de travailler ensemble et de travailler ensemble autour de la réussite scolaire, puisqu'il y a aussi une dérive parfois de travailler plein de choses avec les parents, mais de ne pas parler de scolarité, finalement. C'est bien ceux qui les intéressent, et c'est bien ceux qui doivent être notre objet principal de travail. Des dispositifs, l'école qui se donne à voir, on parlait d'explicitation tout à l'heure, des classes ouvertes en fonctionnement. Moi, je crois beaucoup à cette chose-là, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux parents de venir dans l'école quand elle fonctionne, pour qu'ils puissent voir très simplement comment ça se passe, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ça nous donne l'occasion de nous expliciter, et ensuite, si on parle avec les parents, de comprendre leurs ressentis et comment ils comprennent les choses. La valorisation, bien sûr, hein, des résultats, des progrès. C'est aussi un axe pédagogique de l'axe 1 et 2 de l'école bienveillante et exigeante. Des formations. Alors, vous voyez, formations données aux parents à l'école, au collège. Mais là, il ne faut pas se méprendre. Ce ne sont pas des formations pour expliquer aux parents comment il faut être parent. C'est plutôt des formations qui sont à leur demande, des cours de français ou des formations à l'informatique qui tentent là de faire de l'école un lieu d'apprentissage, un lieu culturel d'apprentissage pour les enfants, bien sûr, mais aussi ouvert aux parents, si eux aussi ont envie de se former à certaines choses, pour créer là une synergie positive entre, finalement, les parents se mettent en apprentissage, les enfants aussi, et peut-être pouvoir créer des moments où on en parle. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation du référentiel et surtout de ce que nous on a mis derrière et ce sur quoi on s'est basé pour pouvoir l'écrire comme il est écrit. Voilà.